Bonjour à tous, et c'est déjà le 16e épisode de la chronique L'économie en fait c'est cool, et aujourd'hui on va parler du financement des campagnes présidentielles. Salut Lilian.
Salut Yann.
Alors on va continuer avec ces chroniques un peu spéciales qui sont directement liées aux enjeux de la présidentielle. Et aujourd'hui, tu voulais nous parler du financement des campagnes. Comment ça marche, quels problèmes ça pose et quelles sont les propositions alternatives qui existent pour les financer.
Eh bien, la première chose à noter, c'est que le financement des campagnes, ça n'a pas toujours été encadré par la loi. C'est surtout à partir des années 80 qu'on a commencé à mettre en place un certain nombre de règles, et notamment avec le principe d'un plafond à ne pas dépasser. Et ouais, donc la première chose à savoir, c'est que dans le cadre de sa campagne, un candidat, il ne peut pas dépenser plus de 16,85 millions d'euros s'il est au premier tour. Et s'il accède au second tour, il ne peut pas dépenser plus de 22,5 millions d'euros.
Alors fixer un plafond, c'est bien, mais pour que ça serve à quelque chose, il faut qu'il y ait des gens qui vérifient que le plafond n'a pas été dépassé et il faut aussi des sanctions pour ceux qui ne respecteraient pas la règle.
Et oui, et c'est pour ça que chaque candidat il doit tenir un compte de campagne qui va remettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Et si l'un d'entre eux a dépassé le plafond des dépenses, eh bien, il va devoir verser au Trésor public le montant du dépassement.
Donc pour un candidat au premier tour, il ne faut pas dépasser 16,85 millions d'euros. Et s'il va au second tour, c'est 22,5 millions d'euros. Mais il vient d'où cet argent ?
Il y a plusieurs sources de financement pour une campagne. D'abord, les candidats ils peuvent faire un prêt bancaire pour se financer. Alors bien sûr, ça implique de trouver une banque qui va accepter de prêter la somme. Et sinon, il y a deux types de financement qui sont le financement privé, avec notamment le don des particuliers, et puis le financement public, avec le remboursement des frais de campagne.
Allez, je te propose qu'on commence par le financement privé.
Eh bien, les campagnes, elles peuvent être financées directement par leur parti politique, ou encore en faisant appel à des dons. Mais les dons, ils doivent impérativement venir de personnes privées. Ce qui interdit, par exemple, les dons faits par une entreprise ou une association. Et puis ces dons, ils sont aussi limités par un plafond. Un donateur ne peut pas donner plus de 4 600 euros à un candidat et pas plus de 7 500 euros à un parti.
Et deuxième source de financement, le financement public.
Et oui, une partie des frais de campagne est remboursée par l'argent public, mais le montant du remboursement dépend du score obtenu par le candidat. Si le candidat il a obtenu moins de 5% des voix, le remboursement il peut être d'environ 800 000 euros. S'il a fait plus de 5% des voix, le remboursement peut atteindre environ 8 millions d'euros. Et puis, si le candidat a obtenu plus de 5% et qu'il est au second tour, le remboursement il peut aller jusqu'à environ 10 millions. Et par ailleurs, l'État il finance aussi plusieurs autres frais sans condition, comme les frais d'envoi du programme et la diffusion de spots audiovisuels.
Alors, un petit résumé pour ceux qui n'auraient pas suivi. On a d'une part les financements privés qui passent par des dons ou des emprunts bancaires. Et d'autre part, les financements publics qui sont conditionnés par les résultats que le candidat va obtenir. Alors l'enjeu est énorme parce que les moyens dont dispose un candidat vont forcément avoir des conséquences sur sa campagne, par exemple sur sa visibilité. Il y a donc un rapport possible qui s'établit entre les moyens financiers et les résultats du vote. Et du coup, j'imagine que ces règles de financement qu'on a mis en place, elles soulèvent tout un tas de questions.
Et oui, ce fonctionnement, il pose plusieurs problèmes. Déjà, la possibilité du prêt bancaire, ça fait que ça donne un poids important aux banques. Parce que du coup, c'est les banques qui peuvent décider de financer ou non un candidat. Et ça, c'est pas rien quand même. Et puis, le don direct par des personnes, ça soulève aussi des problèmes. Notamment parce que déjà, il faut avoir les moyens de faire ce don. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et en plus, ces dons, ils sont défiscalisables. Donc au bout du compte, tous ces dons, ils proviennent majoritairement des personnes les plus riches.
Et ceux qui ont les moyens de faire des dons conséquents privilégient le plus souvent les candidats qui les représentent le mieux. Alors ça devient difficile d'imaginer que ça n'a pas d'incidence au moins sur le déroulement de la campagne et peut-être même sur le résultat du vote. Alors je te dirais bien, heureusement que pour compenser, il y a le financement public, mais ça serait trop facile, non ?
Oui, parce que le lien entre remboursement des frais de campagne et le résultat obtenu, ça pose aussi un problème. Par exemple, ceux qui sont sûrs de faire plus de 5%, ils ne se posent pas de questions. Par contre, ceux qui ne sont pas certains d'atteindre 5%, ils prennent des risques et ils vont du coup limiter les frais qui s'engagent. Et plus ils vont limiter les frais, plus ils limitent leur chance de dépasser 5%. Et ce système, ça donne aussi un point important au sondage, parce que les candidats, ils vont orienter leur stratégie de financement en fonction des prévisions qu'ils obtiennent.
Alors j'entends bien tes arguments, mais est-ce qu'on ne se retrouve pas un peu coincé ? Parce que si on supprime les prêts bancaires pour limiter l'influence des banques, qu'on supprime les dons pour limiter l'influence des plus riches, et le système de financement public pour ne pas favoriser les gros partis, mais il nous reste quoi à la fin ?
Alors, on a plusieurs propositions alternatives qui existent pour éviter ces écueils. Certains proposent carrément que, par exemple, les frais de campagne ne soient plus remboursés par l'argent public, et que, bah, du coup, chaque candidat se débrouille.
Comme c'est un peu bourrin, ça.
Bah surtout, ça rendrait les campagnes encore plus inégalitaires, et c'est assez facile d'imaginer pourquoi. C'est les plus riches qui pourraient faire campagne, et un peu moins les autres. Sinon, il y a aussi d'autres qui suggèrent de limiter encore plus les dons des particuliers, en fixant un plafond encore plus bas.
Alors ce plafond, aujourd'hui, tu nous l'as dit, il est fixé à 4600 euros pour un don à un candidat, et à 7500 euros pour un don à un parti.
Oui, et l'économiste Julia Cagé, elle propose par exemple que les dons ils soient limités à 200 euros. Mais surtout, elle a une proposition très intéressante pour limiter les écarts dus au poids politique de chaque candidat. Elle, ce qu'elle propose, c'est la mise en place d'un système, alors elle appelle ça de « bon pour l'égalité démocratique ». Et l'idée, ce serait que l'État distribue 7 euros chaque année et à chaque personne que l'on pourrait allouer au candidat de son choix.
Alors comme il y a 5 ans entre chaque campagne présidentielle, je vais donc me retrouver avec 35 euros que je pourrais utiliser pour soutenir les candidats que j'ai envie d'aider. Bah finalement, c'est un peu dans l'esprit du parrainage citoyen, mais en version financière, quoi. Bon, bah écoute, ça me paraît clair. Merci pour toutes ces explications. Et de quoi tu vas nous parler la semaine prochaine ?
Bah, la semaine prochaine, on va parler... Bah, en fait, je sais pas encore, mais ce sera sans doute super cool.
Ouais, ça sera super cool, mais t'as rien foutu, quoi.
C'est ça. Bon. Merci Yann pour tes petites remarques.
Je t'en prie, à la semaine prochaine.